Au nom de Jésus, nous nous recueillons devant un texte tiré d'un évangile. Le thème de cette semaine, le thème ecclésiastique, c'est de « Ayez pitié », c'est-à-dire les textes de dimanche dernier et de cette semaine parlent de ce même sujet. Et je vais lire un extrait de l'Évangile selon Jean, son 8e chapitre. Au nom de Jésus. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et toute la foule s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, il se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta. Ils se sentaient coupables dans leur conscience. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, maître, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, » dit Jésus. « Tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. » C'était un acte assez provocatif. C'était un acte provocatif de la part d'un pharisien, même exceptionnellement provocatif. Imaginez une situation où il y a Jésus qui, tout tranquillement, enseigne dans le temple de Jérusalem. Il est assis, on le dit dans notre texte qu'il était là, assis. Ça c'est un détail, un petit détail que ce qui témoigne une situation qui remarque, il voyait qu'il était assis. Et il était là tout tranquillement assis. Et vous savez que moi aussi, j'ai travaillé comme prêtre dans l'église plus de 40 ans. Et pendant ces 40 ans, je suis montée plusieurs fois, beaucoup de fois, sur la place du prêtre, là où le prêtre donne son sermon. Ça, ce n'était pas une chaise. Le mot finnois pour ce lieu est chaise, mais ce n'est pas vraiment une chaise parce que c'est un endroit où on reste debout, on ne reste pas assis. Moi, personnellement, je connais un prêtre, un monsieur qui prêchait en étant assis. Je vous dirai pas le nom de ce monsieur. Mais moi, quand je pense à l'histoire de l'Église, il ne me vient pas à l'esprit une situation, une occasion où il y aurait eu une chaise pour le prêtre. Les prêtres, normalement, ils restent debout, non pas assis. Et cela vient sans doute du fait, j'ai entendu l'explication pour cela, que le prêtre, vous savez, il reste devant la foule, devant les gens, et dans un lieu élevé. Moi, là, je suis en train de tourner de gauche à droite tout le temps. Et on m'a dit que les microphones ici, dans cette réunion, elles sont bonnes. J'espère que vous m'entendez tous. Je veux parler à vous tous qui êtes là à écouter mes paroles. C'est pourquoi je fais tout le temps ce mouvement de gauche à droite. C'est pour m'adresser à vous tous. Et j'espère que le Père Céleste me donne des mots justes, des mots d'amour qui vous renforcent, qui vous encouragent à croire, à voyager avec un esprit, même après ce sermon, avec que vous ayez l'esprit que dans le monde, il n'y a pas une chose plus précieuse que la foi, et que vous ayez la volonté de garder la foi dans votre cœur. Parce que si vous gardez la foi dans votre cœur, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il vit par la foi dans notre âme. Et si le Seigneur Jésus-Christ, il vit, cela veut dire que le royaume de Dieu est dans nous, dans notre cœur. Chaque enfant de Dieu, même ici dans cette réunion, porte une petite partie du royaume de Dieu en lui. Le royaume de Dieu a été caché en toi, dans ton cœur. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais le royaume de Dieu que les enfants de Dieu porte dans leur cœur, nous, on ne peut pas le voir de nos propres yeux. Jésus, il était assis. Il enseignait. Ce sont des petits détails qui nous parlent beaucoup. Ça veut dire que c'est une description qui nous a été donnée par quelqu'un qui était là, à témoigner cette situation. Et puis, Jésus, c'était tôt le matin, le jour après, le jour de sabbat. Il y avait énormément de monde là à l'écouter. Ils étaient là. Jésus lui-même était assis. Les auditeurs, je ne sais pas s'ils étaient assis ou s'ils étaient debout. Donc, les gens qui étaient le plus près de Jésus, c'était les disciples de Jésus. Et puis les autres, ils étaient un peu plus loin. Et ici, dans notre texte, on dit que tôt le matin, écoutez, j'ai du mal avec cette page de la Bible qui sont tellement fines. Bon, donc tôt le matin, Jésus retourna dans le temple et toute la foule s'approcha de lui et il se mit à les enseigner. Et vous imaginez cette situation, Jésus enseignant à une foule. Il y en avait qui restaient à l'écouter sans cesse. Il y en avait d'autres qui passaient dehors et dans le temple. Donc, pensez-y, c'est provocatif que dans cette situation, un groupe d'hommes très pieux, des pharisiens, des maîtres de loi qui arrivent, qui entrent dans le temple et qui y viennent et arrivent avec une femme. Ils amènent cette femme devant toute la foule. Et vous voyez la provocation, c'était osé, c'était très visible. Les pharisiens, ils posèrent cette pauvre femme juste devant Jésus. Leur but, c'était d'irriter Jésus. Et Jean l'interprète cette situation quand il en écrit, ou Jean, ou qui que ce soit qui a écrit ce texte que nous avons lu de l'évangile de selon Jean. Ah, ici, dans la traduction dont j'ai lu cet texte, on dit que cet extrait n'était pas présent dans la version originale de la Bible, mais elle est basée sur la connaissance, la tradition. Mais bon, il y avait un autre fait provocatif. Il y avait d'abord le fait qu'on amena cette femme devant tout le monde. C'était très humiliant pour cette femme. Mais puis l'autre fait, c'était que cette femme, elle avait été surprise. C'était une femme, une épouse d'un homme, une épouse mariée. Et elle avait été surprise avec quelqu'un d'autre en train de commettre un adultère. Là, c'est une autre extrémité dans notre texte. C'était un péché très grave, l'adultère, que le sixième commandement nous en dit « Ne commets point d'adultère ». C'est clair. Il s'agit du fait que la Bible, la parole de Dieu nous interdit toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. Et là, Jésus, il est mis dans une situation difficile. Il voit une âme humiliée publiquement. Une femme qui, c'est vrai qu'elle avait commis un péché grave. Mais là, qu'est-ce qu'il en dit Jésus en apprenant le péché de cette femme. Cette histoire, elle a été écrite dans l'Évangile selon Jean. Et le contexte ici, c'est que on avait le jour avant passé une fête de tabernacle. Les chapitres 7 et 6 de l'Évangile de selon Jean décrivent la fête de tabernacle. C'était une fête qui a été très bien décrite dans la Bible, dans cet évangile. Et à la fin du septième chapitre, on dit que chacun s'en alla dans sa maison. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers et tôt le matin, il retourna dans le temple. Donc voilà le contexte. Et vous savez, vous connaissez bien la fête des tabernacles. Cette année, les Juifs, ils célèbrent la fête des tabernacles. C'est une tradition qui existe depuis des milliers d'années. Et j'ai consulté mon calendrier et j'ai constaté que les Juifs, cette année, Ils célébreront cette fête au mois de septembre ou octobre. Donc, c'était une fête d'automne. Et dans cette fête, il y avait trois choses essentielles. Et je vais vous dire quelles étaient ces trois choses, parce que je pense que c'est assez important pour comprendre cette situation où la femme adultère est amenée chez Jésus. Donc, la première chose, c'est le nom de la fête des tabernacles. Ce nom vient du fait que les gens, à l'époque, ils habitaient dans des tabernacles. Les fêtes avaient lieu dans les tabernacles. Et les hommes passaient même des nuits dans ces tabernacles pendant la période de la fête. Et ces tabernacles, donc ces huttes, étaient construites pour commémorer l'histoire des Israélites. Ils étaient montés, comme nous montons ici, des tentes sur le terrain de la Réunion. Mais à l'époque, les gens n'arrivaient pas avec leurs caravans ni avec leurs voitures, mais ils construisaient des huttes, des maisons provisoires avec des matériaux qu'ils avaient qui étaient là disponibles. Et pour commémorer cet événement, les Israélites et les Juifs, même aujourd'hui, ils construisent ce genre de huttes. Cela est pour nous rappeler que nous, les gens, nous vivons dans la terre provisoirement. Ce n'est qu'une une durée très courte que notre vie ici sur la terre. C'est un temps qui passe vite. C'est pourquoi l'homme devrait penser aux choses les plus importantes dans sa vie. Alors, la deuxième choses liées à la fête des tabernacles et liées au cas de la femme adultère. Donc, la deuxième chose, c'est que la fête avait la durée de 7 jours. Et le premier jour, et surtout le dernier jour de la fête, on y voyait un spectacle impressionnant avec le grand prêtre à un groupe de centaines de prêtres avec le grand prêtre en tête. Ils passaient une certaine route. Ils allaient jusqu'à l'autel et ils prenaient de l'eau dans un carafe en argent et le monde chantait des psaumes de l'Ancien Testament et le grand prêtre, il portait cette eau sacrée devant à l'autel et il versait l'eau sur l'autel et au-dessus de cette eau, il versait du vin. Là, il y avait, c'était un symbole, mais je n'en parlerai pas plus maintenant. Mais donc, cela se passait le premier et le septième jour de la fête. Et pendant le septième jour, la célébration de la fête on portait cette eau 7 fois. On tournait autour de l'autel 7 fois et puis le grand prêtre il montait l'eau devant tout le monde pour que tous puissent voir comment il versait l'eau sur l'autel. Et ça, cela symbolisait une certaine époque de l'histoire des Israélites. Donc, il y avait cette tradition spéciale pendant le septième jour de la fête. Alors, la troisième chose. C'est le sacrifice de feu qui est lié au destin de la femme adultère aussi. Donc, le dernier jour de la fête des tabernacles, on allumait dans le temple de Jérusalem, on allumait 4 chandeliers en or et les cœurs de ces bougies avaient été préparées à partir des vêtements des prêtres. C'était des bougies spéciales. Et le feu qu'on allumait là, c'était un feu spécial que les habitants de la ville venaient pour prendre ce feu pour allumer leurs propres bougies avec ce feu. Et puis, ils mettaient les bougies à leurs fenêtres. Et donc, la ville était allumée avec ces bougies. C'était une ville illuminée, pas allumée, mais illuminée. Donc, c'était une cérémonie assez spéciale. Et dans le Seigneur, il disait que celui qui croit en moi aura cette eau vivante qu'il pourra verser. Il se réfère à l'histoire de Moïse qui avait fait sortir de l'eau du rocher et Dieu, à ce moment, il avait promis à Moïse qu'un jour viendrait la Messie et ce jour-là, toutes les sources des sources seront ouvertes, les sources contre tout le péché et toute l'impurité. Et là, maintenant qu'on célébrait dans cette fête des tabernacles, quand on avait commémoré cette célébration, Jésus était présent et il disait que venez, vous qui croyez en moi, vous serez les sources de l'eau de la vie. Alors, les gens qui avaient participé à cette fête, ils passaient la fête jusqu'à tard. Et puis, cette pauvre femme juive, elle s'est égarée. Elle allait passer la nuit dans une mauvaise tente. Et alors, ces pharisiens, le lendemain, ils amenèrent cette pauvre femme devant Jésus et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme est adultère. » Elle a été surprise en flagrant délit. Et dans la loi de Moïse, on nous demande de la tuer à coups de pierre. Voilà, elle avait été surprise en flagrant délit. Et la loi disait de le tuer avec une lapidation. Nous avons entendu, même aujourd'hui, que la loi de Moïse est sans pitié. Elle ne connaît pas de pitié. Elle condamne. Mais dans notre évangile, on dit que cette loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par le Christ. Et là, notre texte nous témoigne combien la loi de Moïse est sans pitié. Quel que soit le péché, quelle que soit la nature du péché, elle ne connaît pas de pitié. Mais nous n'avons plus besoin de lapider qui que ce soit, parce que il y en a un qui a déjà souffert la punition pour nous. Il a été crucifié pour nous. Donc, quelle est la réaction de Jésus? Est-ce qu'il est provoqué? Les pharisiens, ils amènent la pauvre femme devant lui. Et notre texte, il nous a dit... il dit que Jésus, il se baisse et se met à écrire sur le sol. Il ne se laisse pas provoquer. Mais voyez comme il est habile. Jésus, il s'abaisse. C'était une situation assez cruelle, assez grave. C'était presque... on avait cette... on tuait des gens à coups de pierre, nous le savons. Nous savons que la colère peut faire... quand les gens se mettent en colère, ils font de mauvaises choses. Et à l'époque, c'était la lapidation, c'était normal. Et les Juifs, ils avaient le droit d'arrester Jésus. Et Jésus le savait, mais il ne se laisse pas provoquer. Et l'évangile de Jean, il dit que les pharisiens, ils étaient prêts à tuer la femme à coups de pierre. Et ils étaient même prêts à lapider même Jésus. Ils avaient cet esprit de haine contre Jésus. Mais ce n'était pas encore le temps de Jésus. Le temps n'était pas arrivé. Oui. Jésus se baisse et quand les pharisiens, ils insistent à questionner Jésus. Ils imaginaient que, vu qu'il s'agissait d'un péché assez d'une chose assez provocative, qu'ils se disaient que Jésus, ils allaient répondre qu'il faut obéir à la loi de Moïse. La loi était claire. Adultère, ça mène à la lapidation, c'était clair. Mais les pharisiens, ils savaient que si Jésus dit cela à notre voix, il témoigne qu'il n'est plus l'ami des pécheurs. Et Jésus, il était connu comme ami des pécheurs. Et d'autre part, la loi de Moïse, il condamnait le pécheur, comme il le fait d'ailleurs aujourd'hui, la loi de Moïse. Mais la loi de Rome interdisait cette punition. Et les pharisiens se disaient que si Jésus nous dit de lapider cette femme, nous allons chez les autorités romaines et nous allons accuser Jésus. Donc vous voyez quel piège ils posèrent à Jésus. Ils n'avaient que deux mauvaises solutions. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse et se met à écrire sur le sol. Et quand les pharisiens insistaient à le questionner, Jésus, il leur dit, « Eh bien, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Et les maîtres de la loi, qui connaissaient bien leur Bible, ils savaient que, d'après la loi de Moïse, les témoins, qui devaient être deux ou trois au minimum, ils avaient l'obligation de jeter les premières pierres. Et voilà, ils avaient perdu. Parce que s'ils l'avaient fait, ils avaient transgressé la loi de Rome. Vous voyez combien Jésus était habile. Et d'autre part, Jésus leur parle avec leur propre langue. Je ne sais pas si les gens le comprenaient, s'en rendaient compte, mais il me semble que les pharisiens les plus intelligents, peut-être qu'il y avait le jeune Paul, je ne sais pas, le Saul de Tarse, qui à l'époque étudiait à Jérusalem. Peut-être que Paul était là, je ne sais pas, c'est juste ce que je me dis à moi. Mais il semble que les pharisiens les plus âgés, ils étaient assez intelligents pour comprendre ce que Jésus leur disait. Nous ne savons pas ce que Jésus écrivait sur le sol. Ce que nous savons, c'est que les noms des enfants de Dieu ont été écrits dans les livres de la vie, dans le ciel. Donc, réjouissons-nous du fait que notre nom a été écrit dans ce livre de la vie. Mais où seront écrits les noms de ceux qui n'ont pas leur nom dans l'écrit de la vie sur le sol? Je ne sais pas. Mais je crois que les plus intelligents parmi les pharisiens, ils comprenaient même sur la base des gestes de Jésus, ils comprenaient son message. Mais nous savons quel était l'impact, les gestes de Jésus. Jésus, il employait un langage qui n'avait peut-être pas toujours besoin de mots. Pensez à Pierre qui s'est mis à pleurer devant les gestes de Jésus. Mais là, maintenant, lui, il parle au maître de la loi avec une langue qu'il comprenait. Ils connaissaient la Bible. Ils savaient de quoi Jésus leur parlait. Et ils savaient qu'avait écrit Jérémie, le prophète Jérémie. Je cite à. D'abord, on était dans le temple, et de l'autre côté, il y avait le temple de Jérusalem et la loi de Moïse. Mais de l'autre côté, il y avait la forteresse d'Antony où il y avait des soldats romains qui gardaient la paix, qui veillaient là. Et là, Jésus, il résolut cette situation difficile en parlant avec des gestes dont je ne sais pas si les gens comprenaient. Mais ce qui est sûr, c'est que les maîtres de la loi, dont le devoir était enseigner les paroles de la Bible, et de copier les mots des paroles de la Bible. Même nous, aujourd'hui, nous devons être reconnaissants pour ces maîtres de la loi qui transmettaient les paroles de la Bible, qui copiaient de mot par mot, mot à mot. Ils copiaient les mots de la Bible à main. Ça, c'était la fonction, le devoir des maîtres de la loi. Donc, ils connaissaient bien la Bible. Et qu'est-ce qu'il écrit, le prophète Jérémie? On était devant l'autel du Seigneur. Le prophète de Jérémie dit: Seigneur, tu es l'espoir des Israélites. Tous ceux qui détournent de toi ont un mauvais destin. Ils détournent du Seigneur, de la source de la vie, de l'eau de la vie. Donc, les maîtres de la loi, ils comprenaient les gestes de Jésus. Ils n'avaient pas besoin de voir les mots que Jésus écrivait sur le sol. Il leur suffisait de voir Jésus s'abaisser de nouveau et ils se dirent qu'il vaut mieux s'en aller maintenant. Et là, à ce moment, Jésus se met à parler à la femme. Il parlait à deux avec la femme adultère. Cette femme qui était sans aucun doute était bien consciente de son péché. Et Jésus, quand il la regardait, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une femme pécheresse. Et elle voulait lui parler à deux, avec une langue qu'elle comprenait, elle, sans la présence de ses maîtres de la loi. Il voulait avoir un temps à deux avec cette femme. C'était une femme juive. Donc, le vent balayait très vite les mots que Jésus avait écrits sur la terre. Les gens ne le voyaient pas, mais les mots, je suis sûre que les gens éprouvaient ces mots dans leur conscience. Ils commencèrent à peser dans leur conscience. Jésus, il condamne, il juge le péché. L'adultère, c'était un péché. Et le mariage, d'ailleurs, c'est une alliance entre un homme et une femme. Parce que Dieu, il a créé l'homme en un homme et une femme. Et puis, il a lié ces deux. Et ainsi, il a institué le mariage. Et Jésus, il dit que ça, c'est un fruit de l'ordre de création de Dieu. Et Dieu, il a voulu que un homme et une femme soient unis avec le mariage et qu'ils deviennent une seule chair. Et Dieu, il a même invité ce couple pour coopérer avec lui. Mais Dieu, il n'a pas changé son opinion. Et celui qui fait autrement, qui fait contre ce qui a été écrit dans la Bible, il pêche. Voilà. Et les chrétiens, des premiers temps, ils respectaient le mariage. Ils n'acceptaient pas l'adultère. Ils n'acceptaient pas la divorce. Jésus, il condamne, il juge le péché. Mais Jésus, il pardonne. Et Jésus, il accepte de venir habiter dans notre cœur pécheur. Il dit à la femme, tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. Comment est-ce possible de ne plus pécher? C'est possible lorsque le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous donne la force de lutter contre le péché. Donc, il vaut la peine de lutter contre le péché et de laisser le Seigneur Jésus-Christ habiter dans notre cœur. Ainsi, nous pouvons posséder le royaume de Dieu en nous. Restez à l'assurance. Croyez que vos péchés sont tout pardonnés. Restez en la paix et soyez assurés. Le sauveur des pécheurs est vrai même pour les gens d'aujourd'hui, quel que soit le nom de leur péché. Au nom de Jésus, Amen.